Après coup. Donc, on voulait parler de Donald Trump, le cas du président américain. Pas tellement au point de vue de l'actualité de la présidence américaine, des élections américaines, de la pandémie, etc., de ce dont on parle dans les journaux, mais d'un point de vue psychologique, ce qu'il fait vivre, ce qu'il nous fait vivre.
Ouais. Comment il interpelle tant de gens?
Oui.
Comment on s'en permet beaucoup par rapport à ce qu'on peut dire de lui.
Oui.
Oui, tout ça.
Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il fait, lui, qui nous fait réagir à ce point-là? Parce que c'est comme un gars, comme tu disais, jusqu'à maintenant, le président américain a toujours été traité avec respect.
Oui.
Sauf lui. Lui, on s'en permet... Le chat qui passe.
Le chat voulait commenter Trump.
On s'en permet comme on s'en est jamais permis avant contre lui.
Et donc, c'est tout l'idée de dire, est-ce que c'est en partie un écho, quelque chose qui est normal étant donné les temps habituels? T'sais, est-ce que maintenant, tout en fait, les statues ont tombé un peu, c'est le cas de le dire, des fois littéralement, ou... Les titres ou les symboles tombent parce qu'on s'en permet, parce qu'on a accès à plein de choses, parce qu'on peut commenter aussi ce qu'on ne pouvait pas autant avant, ou c'est parce que ben il a appelé ça en lui-même attaquant tout le monde.
Oui,
parce
qu'il y a
tout ce côté-là aussi. Tu attaques tout le monde, tu peux juste te faire attaquer, mais on peut penser aussi que c'est quoi le mot que je cherche? C'est pas le symbole, mais il y a des institutions aujourd'hui qui n'ont pas la même panache qu'avant juste parce qu'on peut savoir. Ben, qui sont dans ces institutions? Puis, c'est l'OMS
oui.
qui... L'OMS, avant, personne n'aurait dit « L'OMS, c'était pas bon, on arrête de les financer. Hein? »
Mais t'sais? Juste au dernier podcast, on a mentionné, je me suis rappelé de ça quand j'ai vu toute la débandade là, autour de comment... Ben, la débandade, là, c'est comme le retrait du financement des États-Unis, de l'OMS, puis la remise en question de la compétence des gens qui travaillent là, puis la dénonciation d'une potentielle... corruption ou peu importe. Mais au dernier podcast, dans la liste des noms que j'évoquais là, pour de ce qui restait comme encore crédible à une époque où tout a l'air de perdre sa crédibilité, il y avait l'ONU, il y avait même si l'ONU. Puis j'avais dit l'OMS.
Tu vois?
Puis quelques semaines plus tard, regarde,
c'est Trump
terminé.
Qui, par rapport à cette institution-là, qui dit bon, ben finalement, ils n'ont rien compris, ils ne sont pas bons, on va arrêter de les financer, on leur donne 100 millions, je sais pas quoi, mais 100 millions par année.
C'est injuste.
Puis ils nous disent des choses
qu'on ne veut pas entendre.
Ou qui sont fausses parce qu'ils sont politisés eux autres aussi, puis ils ont un agenda. Puis... Fait que, tu sais, il y a quelque chose dans l'air du temps par rapport à des institutions, puis des.
C'est comme une période de désacralisation de tout, puis je trouve en passant que c'est accéléré par la pandémie puis par le confinement du fait suivant, c'est que là, comme les gens communiquent entre eux, puis même les bulletins de nouvelles ou les interviews pendant les bulletins de nouvelles se donnent de chez soi. Puis donc, les gens... les experts et les docteurs et les politologues
sont dans leur cuisine.
On les soupçonne d'être en pantoufles.
Oui. Comme des fois, on s'en rend pas compte.
Ça fait que tout ce qui était le vernis qui recouvrait de brillant le fonctionnement de ce qui nous apparaissait respectable, tout le vernis s'est défait.
C'est vrai, ça.
Ce
semblant-là, c'est quand même... On a déjà parlé, mais... Tu sais, t'as un expert qui arrive en... Homme ou femme, mais disons un homme en cravate, en habit, tout ça, tu sais. Alors, le docteur un tel. Mais là, tu le vois dans sa cuisine, en chemise hawaïenne. Là, d'un coup... Puis, écoute, on l'entend souvent. la force, c'est la force de la projection. Puis, quand ils disent de certaines personnes au pouvoir, on voit que malgré tout, ils sont humains.
Oui! Oui, ils ont su rester proches des gens. Oui! T'sais, comme si d'un coup, ils en faisaient plus partie des gens.
Ah, oui.
Ouais, c'est ça.
Mais bref, donc c'est ça. Donc, non-partisans,
oui.
C'est l'avantage qu'on a d'être dans un endroit où on n'a pas à voter pour ou contre.
Absolument, c'est ça. Puis sans intérêt pour la politique en plus. C'est-à-dire que personnellement, ça m'interpelle énormément. Tout ce qui entoure, en particulier l'état mental, le fonctionnement psychique de ce bonhomme-là, mm-hmm. depuis le procès en destitution. Ouais. Tu sais, j'ai été comme... j'ai reçu, je sais pas, dans les réseaux sociaux, en tout cas, j'ai été comme... interpellée par un article ou un autre à un moment donné pendant le procès en destitution, qui m'a amenée à être curieuse ou à m'intéresser à comment ça marchait dans la tête de cette personne-là, puis qu'est-ce qui, tu sais. Mais avant ça, j'avais aucun intérêt d'aucune façon pour la politique américaine dans le détail comme ça, là.
Ouais.
Fait que c'est pas une question politique du tout, c'est non-partisan, ce qu'on essaye d'élaborer.
Ouais.
C'est vraiment humain ou psychologique ou... T'sais, au niveau de la dynamique interpersonnelle ou de ce qu'on peut voir. Parce qu'encore une fois, je suis obligée d'exprimer ma gratitude pour les réseaux sociaux. Malgré tous leurs défauts, on a accès à tellement, tellement, tellement de choses. C'est ouais. inédit dans l'histoire de l'humanité, là, tout ce qu'on peut arriver à savoir, qu'on peut se baigner pendant... des heures et des heures et des semaines sur des histoires ou sur... Bon,
puis ce qui, moi, me vient à l'idée aussi, c'est il est de bon ton au Québec en particulier. Au Québec, c'est quand même c'est phénoménal, même comment les gens, à part quelques rares exceptions qui sont même vite classées comme étant plutôt bêtes, là, n'aiment pas Trump. C'est très, très accepté que Trump est un clown.
C'est ça, depuis...
De le début.
Depuis le début.
Puis autant aux États-Unis, on peut dire, ben, il y a quand même du monde qui a voté pour lui, puis c'est 50-50. Au Québec, ça en bloque dans les journaux, partout. Comme quoi, une chance qu'on n'a pas quelqu'un ici comme Trump.
Oui.
Puis moi, en fait, j'avais toujours un trait de sa personnalité, je pense, dont on va parler, m'apparaissait en fait plutôt sympathique, ou pour laquelle j'avais un a priori favorable, c'est le fait qu'il soit en mesure de dire... clairement qui était son ennemi et pourquoi, dont les médias. Puis que oui. moi, j'aimais plus, en fait, tu sais, the devil you know, quelqu'un qui arrive puis qui dit « Les médias sont les ennemis du peuple, le gars du New York Times, c'est un pas bon, je vais essayer de l'humilier, il est pourri », puis d'arriver en bloc, tu sais, sans aucune subtilité. J'aime mieux ça, parfois, souvent, que d'autres qui se drapent dans une espèce de compassion spectacle. Ah, nous, c'est la bonté, c'est la richesse, c'est le partage, c'est la diversité. Puis que tu apprends que finalement, par contre, en arrière-plan, les décisions qui sont prises ne reflètent pas du tout ce branding-là, qui est un branding tape à l'œil, tout ça. Fait que, tu sais, moi, souvent, tant qu'à être dans le.
Faire semblant.
Regardez-moi, je suis bon.
Le discours de la vertu, là,
ouais.
le discours vertueux.
Regardez-moi, je suis vertueux.
Le branding vertueux, là.
Exact. J'aime autant quelqu'un qui arrive puis qui dit, ben. Le New York Times, c'est des menteurs, puis ce qu'ils disent à mon sujet, ils sont pas bons. Mais...
oui.
Boum, boum, boum.
Oui.
Tu sais?
Oui.
Et fait que ce trait-là, qui est central, pareil, à son style, puis qu'il n'y a plus à bien du monde aux États-Unis, pas ici, mais
oui.
bien du monde aux États-Unis, il a
oui.
su attraper quelqu'un du monde avec ça, fait partie de sa personnalité, c'est sûr.
Oui. 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 Puis ça a assuré son succès aussi, c'est sûr.
Fait qu'on pourrait dire l'identification de l'ennemi clair. Puis la ridiculisation, ça ne dit pas, mais ridiculiser son ennemi fait partie de la dynamique. Hein?
C'est possible. Ben, c'est possible. Tu sais, je pense que c'était Marie-Jean Sorel, le psychanalyste, là, qui énonçait les choses de la façon suivante. Celui qui fait la révolution, c'est le pervers. Fait que ça, c'est le pervers dans le langage psychanalytique. C'est-à-dire celui qui transgresse les normes. Ce qui est, pour des psychanalystes lacaniens, comme Marie-Jean Sorel en est, la perversion, c'est un déni des normes.
Mm.
C'est pas qu'ils ignorent, c'est pas que, disons, un pervers, là, au sens psychanalytique, c'est pas qu'il ignore qu'il y a des normes, c'est qu'il sait qu'il y en a et des dénis, et dans le déni.
Ouais.
Tu sais, le ouais. déni de la loi.
Ouais. Hein?
Ça fait que c'est toujours dans un rapport de transgression qui se situe. Mais comme le pervers est dans un rapport de transgression, c'est par lui que vient la révolution.
Mm-hmm.
Fait qu'il te présentait un tableau, la structure c'était ça. Il y a des normes qui s'installent, des lois, des normes. Le pervers arrive, transgresse les normes, les confronte, les dénie.
Les bouscule.
Provoque des changements, une désorganisation, des changements au niveau des normes, ce qui crée une nouvelle structure qui est post-révolution.
Et voilà.
Et rebelote, ça
ouais.
jusqu'au prochain pervers.
Ouais.
Fait que c'est ce qu'il appelle un pervers, tu sais, comme dans ce langage-là, là,
ouais.
qui n'est pas le langage
comment?
Courant, là, de, c'est dans le sens pervers sexuel, tu sais, mais c'est dans le sens de la logique perverse.
C'est ça.
Fait que lui, ce qu'il a fait, en fait, par rapport à ce que tu dis, ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a canalisé un agacement que beaucoup de gens pouvaient éprouver et éprouvent encore, par rapport aux normes et aux codes non dits,
ouais.
Qui fait qu'on se comporte de telle façon sans transgresser dans les médias, par exemple,
ouais.
et qui peut comme susciter un agacement parce qu'on a l'impression que c'est pas toujours tout à fait honnête, que c'est souvent biaisé.
Mais dans le sens du pouvoir aussi,
dans le sens du pouvoir,
l'establishment en place.
Puis que c'est un nouveau pouvoir,
ouais.
les médias aussi.
Ouais.
C'est comme un pouvoir parallèle, tu sais. Puis on peut se sentir exclu.
Ouais.
On a l'impression que c'est un club, tu sais.
Uh-huh.
Puis il est arrivé, puis il a canalisé cet agacement-là, puis il leur a dit « Vos ennemis sont les miens. »
Ouais.
Et je pense que c'est ce qui a fait son succès à la première élection, c'est que les gens ont dit « Ah, mais ça, c'est cool, un gars qui haït les mêmes personnes que moi. »
Ouais, c'est ça.
Je pense...
Ouais, tout à fait. Puis qui va nous mettre au centre... De ses intérêts en disant, même à la limite, tu sais, c'est, on ne se fera plus avoir dans nos négociations avec la Chine, ça va être vous autres, ça va être les Américains, les médias sont contre vous, ça va être vous autres,
oui.
puis l'establishment politique.
L'establishment.
Ben, puis c'est des mots forts en plus, parce que ça vient pas, ça capte l'imagination, tu sais, son truc de drain the swamp, ça parle, tu sais, je veux
oui.
dire, quand même, comme expression, là. Qu'il y aurait pas les... Ce serait dur d'imaginer quelqu'un qui arrive au Québec puis qui, par rapport à un establishment culturel, politique, social, arriverait en disant « Ici, on va drain the swamp. » Parce que les gens qui sont dedans, on les connaît.
C'est... Oui, c'est ça.
Ils habitent tous à côté de nous
oui,
autres.
Oui, c'est ça. C'est ça, on les connaît dessus. C'est ça, c'est nos voisins.
C'est ton voisin dont tu parles.
C'est ça.
Ça rendrait ça dur un peu, tu sais.
C'est ça.
C'est gênant.
C'est plus difficile de déshumaniser...
Oui.
Des gens quand ils sont loin, quand t'es dans un pays de 250 millions, 300 millions de personnes,
ben oui.
puis que Washington, c'est à comme 140 ouais. km ou 260
ouais,
ou 1000 km
c'est
de
l'élite
chez vous.
D'une place, là,
c'est l'élite d'une place où tu iras jamais, où
ouais.
tu vas peut-être aller une fois dans ta vie, que quand t'es dans une petite place où ce que là, tu vas peut-être te croiser dans le métro.
Oui.
Là, il est quelqu'un. Il n'est pas juste un personnage de télé ou de journal.
On peut penser que ça a participé à son succès, là, cette identification-là de certains ennemis, la façon imagée qu'il avait de les nommer.
C'est un gars de télé, hein? C'est que ça.
Ouais, de formule.
C'est un gars de formule. C'est le paroxysme de toute la logique du branding puis
ouais.
de la mise en marché. Qui, comme on disait tantôt, là, avant d'enregistrer, là, oriente à peu près tout depuis au moins les années 90, là, tu sais, que tu, sais, comme, il faut que tu te mettes en marché, ou sinon tu péris, mets-toi en marché, ou péris. Si t'es pas capable de te brander, quelqu'un d'autre va te brander à ta place, puis tu veux pas ça parce qu'il va te faire un branding.
Qui est pas bon.
Tu sais,
ouais.
c'est qu'on est dans l'image. Il a réussi, c'est comme ça qu'il réussit. C'est comme un il a le sens de la formule, puis
ouais.
il sait comment jouer avec les médias, c'est clair.
Oui, puis le fait d'avoir aussi d'arriver à un moment t'sais, ou les réseaux sociaux, dont Twitter, je pense que Twitter, pour le nommer comme ce réseau-là, a beaucoup contribué à son affaire, parce que c'est nécessairement des formules choc, c'est court, c'est deux phrases, 140 caractères, je sais pas quoi. Il utilise ça beaucoup, puis ça lui permet de contrôler le message. T'sais.
Oui.
Puis d'arriver. Puis, tu sais, dernièrement, il y a beaucoup de choses qu'on dit, par contre, tu sais, des fois, ceux qui l'aiment pas vont être vite à dire qu'il écrit n'importe quoi ou qu'il. Je le crois bien qu'il y a des gens qui l'aident puis que c'est pas lui qui s'assoit nécessairement puis qui tout là, ses messages sur Twitter là, qu'il y a du monde qui participe à feeder ses idées là.
Ben on peut parier, moi je pense on peut parier que s'il dit Joe Biden, c'est pas lui qui écrit ses propres messages, c'est par projection qu'il dit ça. Moi je fais ce pari là, c'est que quand il accuse quelqu'un de quelque chose,
ouais,
c'est qu'il l'a fait, mais ou que c'est que ça le concerne.
Oui.
Fait que, oui, on peut croire ça. Puis on le sait, en fait, qu'il y a un conseiller PR, réseaux sociaux.
Comme François Legault, il ne publie pas ses messages Twitter.
C'est ça.
Puis,
pas tout, c'est ça.
Oui, puis des fois, il peut, mais on sait, même ici au Québec, on sait c'est qui la personne qu'ils ont conseillé.
Oui, un conseiller en réseaux sociaux.
Ouais. Mm. Puis même des fois, ça fait encore pour nommer des noms, là, ce qu'on ne fait pas souvent, mais qu'il y a des gens dont on va trouver que la performance Twitter est plus forte que la performance en vrai, parce que la personne qui écrit le compte Twitter, a plus le sens du punch que quand on le voit en entrevue. Là, tu vois, sur Twitter, ça boum, ça c'est très punché, puis arrive en entrevue, puis ça, la formule est pas autant là. T'sais. Mais dernièrement, je trouvais, je sais pas si tu l'as vu, ce tweet-là, fait qu'il l'a fait ou non, en fait, c'est pas tellement grave, là, dans le sens que ça fait partie de la machine. Tu sais, avec tout le Black Lives Matter, tout ce qui est arrivé dans les derniers mois, que là, il y a aussi en filigrane le genre d'affaires qu'on peut vraiment penser qui espère qu'il va prendre dans le tourbillon, parce que ça lui permet d'identifier un ennemi clairement puis de se séparer de la masse. Là. Tout le truc d'enfants abusés, de pédophilie, de tout ça, avec le
Epstein,
puis tous les gens qui l'entouraient, pas tant, on sait pas qui, mais on peut penser qu'il y avait des gens en politique qui tournaient autour. Là, c'est pas,
oui,
pas un grand complot de penser à ça.
Non, pas besoin de. Ouais.
Puis lui, il écrit un tweet très simple où il dit pourquoi il n'y a pas à Hollywood un endroit où c'est marqué Child Lives Matter.
Ah oui, j'ai pas. Ok.
Puis là, moi, je le lis. Puis c'est vrai, tu sais, mais là, je le lisais vraiment comme. Tu sais, une pandémie d'un virus invisible, même si tu peux toujours essayer de le rapprocher à la Chine, ça reste pour lui comme la pire situation.
C'est savoureux, je m'excuse de le dire, là, mais en termes de spectacle, là, c'est de soap opera, c'est savoureux. Pardon.
Non, mais vas-y, parce que c'est vrai, dans tout ce qu'on dit, l'endroit où on peut penser qu'il est le moins confortable, c'est dans un contexte de pandémie, un truc médical, de virus que tu contrôles pas, t'as pas d'ennemi, tu peux pas le personnaliser, tu peux pas l'appeler Sleepy Virus, puis
ben, t'essayes de l'appeler le China Virus, puis ça prend jamais, ça fait jamais rien, ça a jamais l'impact que ça a pu avoir de parler de Crooked Hillary, par exemple, en 2016,
oui.
C'est ça. Puis c'est savoureux parce qu'il est reconnu, semble-t-il. D'ailleurs, j'ai une petite. Reconnu comme. En anglais, ils appellent ça germaphobe.
Ouais. Germaphobe, là.
C'est fait que. Ce serait quoi l'expression en français, là? En tout cas, une phobie. Il y a de la phobie.
Je ne savais même plus ce que passer naturellement.
C'est ça. Mm-hmm. C'est une forme de toc. Tu sais, comme il y a. Ça fait que. Là, tu as quelqu'un. OK, qui est dans un esprit d'une logique perverse, qui est un showman, qui doit son succès politique et financier à la fabrication d'histoires punchées qui ont ou qui n'ont pas d'ancrage dans la réalité, puis à l'identification d'ennemis. Qui, quand t'es un homme, te donne à toi le beau rôle, simplement du fait de les nommer,
tu sais,
qui tout d'un coup se retrouve confronté à une crise majeure qui entraîne un effondrement économique lié à un microbe microscopique et à sa propagation en milliards de trilliards d'exemplaires, au point de causer des centaines, des dizaines de milliers de morts aux États-Unis, des malades, etc., que tu ne peux pas nommer, que tu ne peux pas ridiculiser, non. Que tu ne peux pas humilier. Puis là, bon, ben, t'es réduit à chercher qu'est-ce que...
Ben, t'es réduit à faire ce que souvent il fait, moi, je trouve. Puis encore là, c'est pas tant négatif, mais ben, c'est ce que tu viens de dire. T'sais, c'est comme un peddler, des fois, qui garoche des histoires. On va bâtir cette tour qui va être la plus grande et majestueuse tour.
Personne n'a jamais vu ça.
Puis là, il embarque du monde. Hein? OK, parfait, on la construit, puis on la finance, puis...
Mais on veut croire à son histoire.
Ouais.
Ça a toujours été ça.
Ben, c'est ça. Mais tandis que là, tu garoches un truc de tel médicament, mais ça n'a pas de prise. Il y a toujours un scientifique rabat-joie deux secondes après qui dit pas vraiment, non, c'est pas vrai.
C'est vrai. Puis là, t'essayes de prendre Dr. Fauci.
Ouais.
T'essayes de prendre le scientifique puis de le démoniser.
Mais dans un temps où les gens ont peur ou de pandémie, c'est le moins bon temps pour peddler, tu sais.
Ben là, tu sais, comme il travaille pour ton administration, en plus, ce docteur-là, il est super respecté, il a 80 ans, je veux dire, il a plus de réputation à défendre, comme, tu sais, comme il a rien à gagner.
Ouais.
Puis toi, tu essaies de le démoniser pour que les gens ne fassent pas ce qu'il recommande,
ouais.
Pour qu'on n'ait pas l'air d'être en pandémie. C'est que là, on est dans le registre de la maladie mentale, là, disons-le comme ça, là. Parce que c'est évident, tu vois, que le roi est nu, là. C'est évident que le pédelage, son pédelage est complètement déconnecté de tout ancrage dans quoi que ce soit, puis il cherche désespérément à l'ancrer dans quelque chose, puis ça marche plus.
Mais pareil, il reste l'idée. C'est vrai que là, la pandémie met en lumière certaines choses, puis ça, c'est pas à son avantage, mais est-ce que... Même là, ou par le passé certainement, on n'a pas été parfois dans un sens injuste à son égard, dans le sens que...
C'est ce qu'il dit, c'est ce que lui, il trouve.
Oui.
Oui, je t'écoute.
Parce que moi, j'ai vu des journalistes, par exemple, aussitôt qu'ils avaient parlé une heure, de faire tout de suite un topo, fact-check, puis de relever les 28 mensonges dans son discours de 45 minutes.
Là, oui.
Boum, 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 boum. Ou mensonges, ou demi-vérité, ou coin arrondi.
Oui.
Puis là... Puis effectivement, je conçois tout à fait qu'il appelle ça parce que il parle comme un homme d'affaires qui exagère, puis qui en rajoute, puis qui rajoute du rêve, puis qui laisse pas les détails enfarger une belle histoire. T'sais. Fait que c'est vrai qu'après ça, si tu prends littéralement ce qu'il dit, tu peux dire non, mais c'est pas ça, tel aspect, c'est pas vrai. T'sais. Sauf que tu as plein de politiciens par ailleurs, à côté, ailleurs, par le passé, qui disent des banalités en faisant des choses à côté,
oui.
Qui sont le contraire,
oui.
de la mélasse qu'ils disent, mais parce que c'est dans le sens du discours courant, ou parce
qu'il a l'air chic,
oui, puis que c'est virtueux,
parce qu'il est beau bonhomme, ou que là, respectable.
Tout va bien, tu sais, puis oui. Qu'on n'ose pas s'attaquer à lui parce que la défense de ce politicien-là, drapé de vertu, ça serait de dire, ben, faut vraiment être cynique. Faut vraiment vouloir trouver là, chercher la faute pour reprocher quelque chose quand en fait tout est tellement clair qu'on essaie d'aller dans le sens de d'être bon, d'être fin, d'être sympathique.
Oui.
Fait que là ça menotte tout le monde.
Oui.
Trump enlève les menottes parce qu'il comment il attaque tout le monde.
Oui.
Ben là tu dis on va attaquer nous autres aussi, tu sais.
Oui.
Mais c'était quand même nouveau, c'est quand même un phénomène nouveau, je trouve, d'être si à cheval sur le détail du véridique de ce qu'il dit, à côté de politiciens des fois qui disent des trucs.
D'ailleurs, oui. D'ailleurs, tu sais comme je me demande si c'est pas aussi le prolongement de quelque chose, tu sais qui est la cause. Tu sais quand est-ce que il est la cause ou il est la conséquence,
ouais.
Tu sais.
Oui, oui.
Tu sais, on raconte, là, il y a un documentaire en ce moment sur Donald Trump, là, en plusieurs épisodes. Le titre m'échappe, mais en tout cas, c'est fort intéressant. Il y a quelqu'un qui raconte comment, tu sais, chaque année, il y a un press gallery. Le président américain est invité
à
un dîner de la presse, puis
ouais.
C'est l'occasion, tout le monde rit de tout le monde,
ouais.
Puis on fait bien de l'humour, puis tout ça, puis tout ça. Puis.
Ouais.
Une année...
En
2011? Barack Obama?
Mm-hmm.
L'année où Barack Obama Puis c'était pas juste lui, hein. Seth Meyers aussi.
Il l'a ridiculisé. Hein?
Il l'a ridiculisé brutalement. C'était brutal. Puis Barack Obama aussi, l'humiliation, tu sais, ça a causé chez quelqu'un, comme ça illustre aussi le personnage, mais en tout cas, pourquoi? C'est ça, qu'est-ce qui vient où? C'est où l'œuf ou la poule, tu sais? Mm-hmm. Ça l'a tellement humilié, raconte cette personne dans ce documentaire, que c'est là qu'a commencé à se cristalliser l'idée de se présenter aux élections américaines.
Ouais.
Ça fait que ça a commencé par ce sentiment. C'est parce que ça, c'est le gars de New York, hein?
Ça a commencé par l'humiliation. Si c'est vrai, l'humiliation est au centre même du déclencheur.
C'est ça. Le déclencheur de, tu sais, du fait qu'il se présente à la présidence. C'était comme ce que je disais aussi par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'injustice, de la façon particulière dont il est traité, par rapport à comment d'autres sont traités.
Ouais, ouais.
Il a été traité comme ça en 2011. C'est comme ça s'est perpétué. Mm-hmm. Ça continue dans les journaux, puis dans les postes de télé, qui sont ceux-là qui le traitent de fake news. Il y a comme un a priori, pas anti-Trump, mais en tout cas de condescendance par rapport à lui qui se dégage. En tout cas, depuis que moi je lis ça, c'est comme depuis que je les lis, là, je suis vraiment. C'est le sentiment que j'ai, il y a cet a priori-là. Puis donc, tout l'establishment.
Ouais.
C'est que tu le vois, sa névrose, parce que c'est pas de la névrose, tu sais, mais son truc.
Ouais.
Ressemble beaucoup à une réaction au rejet qu'il a peut-être éprouvé, probablement éprouvé, à ce moment-là, qui a, selon cet intervenant-là, été particulièrement humiliant pour lui, et qui rassemblait dans la même salle tous ces gens-là qu'il traite aujourd'hui de fake news.
Oui, mais, hein? Mais ce qu'il y a quand même de particulier...
Et sa haine pour Barack Obama. Oui, c'est ça,
j'allais dire. Oui, parce que je pense que... Parce que ceux qui ne sont pas d'accord, en parenthèse, c'est que ceux qui ne sont pas d'accord avec cette hypothèse-là, ils disent, ben non, parce que deux mois avant... Je sais pas en anglais comment on appelle ça, c'est le dîner des journalistes, ça a un nom précis, là.
Pas la galerie de la presse, ouais. The Press Gallery, c'est pas...
Ils se rencontrent une fois par année, puis ils s'auto-congratulent, puis ils se font des blagues.
Oui, on est entre nous, c'est ça. Oui, mais... Nous, de l'extérieur, ben nous, je dis nous, mais tu sais, le commun des mortels, parce qu'il y a aussi qui regardent ça, c'est comme, OK, on vous regarde, vous, le gratin. Vous...
Exact, mais c'est là que pour lui, ça faisait un bon ennemi à identifier aussi, parce que c'est quand même particulier. Tu dis, pourquoi pendant toute l'année, des journalistes remettent en question des politiciens, puis les lois, puis les règlements, parce que c'est leur rôle. Puis là, il y a un moment où toutes les gardes sont baissées, puis tout le monde unit tout le monde, puis ils font un grand gala, puis surtout congratulent. Puis,
oui,
puis
c'est parce qu'on sait qu'on faisait semblant. Oui. On le sait qu'on faisait semblant toute l'année.
C'est ça. Tu sais? Puis là, lui, il se pose en disant, bon, mais moi, je serais pas là-dedans. Tu sais? Je serais pas dans cette gang-là.
Mais j'aurais voulu, c'est le sentiment, je sais pas, moi, je serais pas dans cette gang-là.
Ben depuis qu'ils m'ont tous exclu.
Depuis que c'est clair qu'ils m'ont exclu.
Mais bon, il y a peut-être Obama aussi, parce que ceux qui ne sont pas d'accord avec cette théorie-là, là, que ça, son déclencheur de se présenter vient de là, vont dire que deux mois avant, il y avait eu un roast qui avait été organisé par Comedy Central sur lui. Donc plein de gens qui venaient faire un petit topo, tu sais. Puis ils vont dire, ben non, vous voyez, il avait participé, puis ça ne l'avait pas dérangé, tu sais. Sauf que. Mon idée, moi, c'est qu'il y a une différence en dire « on organise un bien cuit à mon égard, je sais qui est invité, puis je sais qu'on va faire des blagues sur moi, puis c'est comme une célébration, à la limite, là, tu sais, on rit de bon cœur, et de se faire prendre au dépourvu par quelqu'un contre qui, je sais pas pour quelle raison, mais t'en as gros sa patate, en l'occurrence, plus puis Barack Obama, parce que ça faisait un bout de temps que ça... Ça...
Je sais pas, le mouvement birther, là, t'es pas un vrai Américain, puis t'es né au Kenya.
Mais tu sais, Barack Obama,
ça avait commencé avant.
Oui, parce qu'il fait une blague là-dessus. Oui. Il dit un truc dans le roast, il dit, je traduis librement, mais il dit, il y a personne qui est plus content que moi, il y a personne qui est plus content que Trump, que Donald, que ça soit fini, l'histoire du birthright.
C'est ça.
Parce qu'il va maintenant pouvoir se concentrer sur les vraies choses qui importent pour vrai. Comme, est-ce que la planète est vraiment plate? Est-ce que la Terre est plate? Tu sais, puis là, toutes sortes de niaiseries pour vraiment ridiculiser, tu sais.
Oui, oui.
Donc, il y en avait
c'était
déjà...
C'était une vengeance.
Oui.
C'était
une vengeance.
Mais c'est ça aussi, c'est le...
Et c'est là qu'on peut reprocher à Obama, pareil, de toujours se venger d'une façon socialement acceptable, tu sais.
Mais il est élégant. Pourquoi on lui reprocherait d'être élégant? Pourquoi il se vengerait pas, tu sais? Pourquoi il... Je veux dire, c'est quoi ça, se faire agresser de même sur tes origines?
Oui, mais...
Pourquoi on lui reprocherait...
Oui, mais... T'sais? Ça lui permet quand même, Obama, de prendre des décisions qu'on pourrait juger graves. Je pensais pas nécessairement aller dans tout ça parce que c'est compliqué, mais... En tant que président, nécessairement, c'est bien compréhensible, là, Obama a dû prendre des décisions importantes qui ont eu de l'impact sur des gens, puis qui ont eu des guerres et tout ça. Mais étant donné l'aspect très noble qu'il a et qu'il avait, est très correct et que c'est facile d'assumer que c'est une bonne personne avec des bonnes intentions et des bonnes valeurs, on y a passé plus facilement certaines décisions de tuer du monde et d'agresser des gens. Et selon, si ma mémoire est bonne, peut-être que c'est pas vrai, là, mais une des choses que j'ai lues, c'est que pendant ce roast-là du dîner où Obama humilie Trump, pendant ce moment-là, soit vraiment littéralement pendant ou la journée avant ou la journée après, mais très proche, c'est là qu'il donne l'autorisation de tuer Kadhafi.
Ah oui?
C'est vraiment dans ce même moment-là. Et c'est quand même un exemple pour moi qui illustre ça. Tu sais, que Trump ferait une chose similaire aujourd'hui, on serait beaucoup plus facilement porté à dire, mais là, faut être très légitime avant de décider de tuer du monde. Là. Mais bon, Obama, ça passe bien, tu sais. Mais bon, je ne vais pas m'embarquer dans si c'était légitime ou non et pourquoi, puis qu'est-ce que Kadhafi a fait, mais quand même...
Oui, mais je veux dire, il a essayé de faire la même chose, Trump, avec Soleimani, le numéro 2 dont on apprend soudainement l'existence, le numéro 2 iranien. Il le fait assassiner, puis ça passe comme un fait divers banal. Il n'y a pas de... Alors que Kadhafi, c'est des semaines et des semaines de couverture médiatique. Ça fait qu'il essaie... c'est compliqué. En même temps, on pourrait en parler. Je ne sais pas pourquoi on n'en parlerait pas, là, parce que c'est immense la somme d'informations qui sont liées à la relation de Barack Obama avec Donald Trump, la présidence américaine. Ouais.
Et les transgressions, parce que, tu sais, donner l'autorisation d'enlever la vie à quelqu'un par ton armée... Pour pas que ça soit une transgression illégale, il faut que ça soit vraiment légitimé. Ça va de soi, c'est un fait. T'sais.
Oui.
Fait que là, comment tu justifies ça, puis comment est-ce que ta personnalité, puis ce qu'on présuppose de tes intentions, peuvent aider la légitimisation?
Oui.
C'est quand même un fait dont il faut tenir compte. Mm-hmm. Fait que c'est comme ironique que dans ce moment-là, pourquoi je disais ça, là, mais que ça a été un des enjeux qui était dans l'air du temps là, en 2011.
Juste une petite parenthèse sur Soleimani, c'est que c'est une tactique, ça c'est une tactique politique qui est bien connue, puis c'est vieux comme le monde, puis c'est pratiqué amplement aux États-Unis, de créer un conflit à l'extérieur, de créer un problème à l'extérieur, de te présenter comme le sauveur ou le gestionnaire du monde pour des raisons de politique interne.
Oui.
T'sais? D'ailleurs, c'est ça qui fait que ça peut être effrayant d'avoir quelqu'un comme Trump à la présidence en ce moment, puis dans les circonstances dans lesquelles il est, parce qu'il est assiégé de toutes parts.
Oui.
C'est qu'il pourrait décider, il a compris ça, lui. Il a essayé, ça marche pas, parce que les journaux mordent pas. Soleimani, il l'a fait assassiner. Comme ça, je sais pas que c'est quoi le tenant et aboutissant de pourquoi tout ça, mais on peut... penser que sa décision, c'était pas une décision fraîchement mûrie, au-delà de « ça va m'aider dans les journaux », parce que c'est un showman.
Mais c'est effectivement...
Mais ça marche pas. Les journalistes embarquent pas de la même façon qu'ils embarquent. C'est une question de crédibilité, c'est juste
tout à fait.
De la même façon qu'avec Obama.
Mais en même temps, il y a l'idée aussi que, curieusement, que l'histoire va le dire plus facilement peut-être que maintenant, mais on pourrait supposer que tu regardes les derniers présidents aux États-Unis depuis les 20-30 dernières années, c'est le moins belliqueux par rapport à l'extérieur, tu sais, qui n'a pas si souvent joué la carte de « il y a un endroit dans le monde qui est l'axe du mal, puis il faut l'attaquer, puis on va mettre l'ennemi à l'extérieur pendant que nous, les Américains, on est bons ». Ce qui en fait plus fait, c'est de dire « l'ennemi est parmi nous ».
Oui,
ce sont les médias.
Et je m'entends bien avec tous les dictateurs de ce monde, je les aime d'amour. Ils m'écrivent des lettres d'amour.
Mais ce qui peut aussi créer ce qu'ils vivent, c'est qu'à partir du moment où, tu sais, c'est un fait de structure, tu sais, si tu dis l'ennemi est à l'extérieur et nous les Américains, je vais vous représenter pour le combat, c'est une chose, les gens vont te suivre ou non, mais c'est clair. Mais si tu dis l'ennemi est parmi nous, c'est l'establishment à Washington. I'm gonna drain the swamp. Oui. Les ennemis du peuple. Puis tu sais, c'est pas des figures de style que nous, on... il dit littéralement, tu sais. Oui. The enemy of the people, c'est pas...
Non, c'est
pas quelque chose que nous, on dit, ah ben c'est une façon qu'on pourrait formuler ce qu'il essaie de dire. Il dit.
Oui.
The enemy of the people, oui. Ce sont les médias. Et les médias, c'est toi. C'est... Il pointe le monde. Quand,
oui.
Le gars de CNN, pointé du doigt, tu sais.
Oui.
Fait que... On peut penser quand même que ça amène aussi des réactions plus fortes contre lui que s'il avait dit d'emblée « il y a un ennemi en Irak,
il faut
se mobiliser, on va les attaquer ». Là, les gens auraient remis en question sa crédibilité, mais il n'aurait peut-être pas été si prompt à dire « tu sais, ce gars-là, pour reprendre ton expression, le roi est nu, il n'est pas bon, il est malade mental ». Parce que là, ça amène à, donc une situation où il y a plein de gens, pour la première fois depuis vraiment peut-être toujours, en fait, pendant qu'un président est en poste, disent de lui, ben, il y a une maladie mentale, ils en doutent,
oui.
etc.
Oui, pour la première fois dans l'histoire, puis contre, comme on avait parlé à un autre podcast aussi, contre ce qu'on appelle la Goldwater Rule, qui non seulement comme est mise comme principe à l'Association des psychiatres américains, l'APA, là, des psychiatres américaines, mais qui a été étendue, étonnamment, semble-t-il, à partir de 2016, pour interdire aux professionnels de la santé mentale non seulement de diagnostiquer à distance. Ça aussi, ouais. C'est fascinant, ouais. comme histoire à côté. Là. Il y a beaucoup d'affaires à dire là-dessus. Là. Mais en tout cas, non seulement de diagnostiquer à distance une personnalité publique, mais de commenter en tant que psy,
en temps
à
réel.
Distance, les comportements d'une personnalité publique. C'est-à-dire que là, tu as un organe de gestion ou de supervision des codes d'éthique liés à la profession, des professions en santé mentale, qui interdit à ses membres, sous peine de sanctions, de participer au débat public. C'est ça que ça fait en réalité.
Ouais.
Et donc, contre les recommandations éthiques, c'est pas juste des recommandations, c'est critères, une réglementation éthique déontologique de l'APA, tu as toute une trollée, là, une gang de psychologues, de psychanalystes, de psychiatres, de professeurs de psychiatrie qui osent non seulement commenter, là, mais le diagnostiquer.
Parfois d'une façon... Ah, je n'aurais pas dit ça, mais oui, parfois d'une façon empreinte de partisanerie quand même. Hein?
C'est ça. Puis, comme toujours, c'est ce que ça révèle aussi, c'est que la psychiatrie, la psychologie, c'est une science art, c'est une science artistique, et puis, bon, ben des diagnostics, il y en a plusieurs.
Oui, écoute, là, si on faisait...
On n'est pas tous d'accord.
Si on faisait la liste de tous les diagnostics qu'on lui a affublés, là, ça...
C'est ça. Mais c'est qu'il est tellement polarisant, puis t'as des gens qui sont tellement... comme que ça vient tellement chercher dans le fond de leur trip que là, on va risquer de perdre notre licence là, de pratique parce qu'on n'est pas capable de se retenir, de commenter, tu sais. On veut qu'ils disparaissent.
Ouais.
On veut qu'ils s'en aillent, tu sais.
Tu sais, pour revenir à ce que je disais, ce qui est difficile par contre dans ces moments-là, c'est de dire qu'on le fasse, on peut comprendre. On peut comprendre que les gens soient amenés à faire ça. Certains vont dire même que leur but, c'est un but de sauver la nation, là. Ben, en fait, sa nièce qui vient d'écrire un livre, qui est une psychologue ou une...
Moi,
en tout cas, je pense que oui. Là.
Psychologue clinicienne PhD, c'est ce que j'ai compris.
Sa justification, c'est de dire, ben, les élections s'en viennent, faut que vous sachiez cela.
Mon oncle est l'homme le plus dangereux sur la planète.
Oui, c'est ça.
C'est un sociopathe. C'est son... Ça n'existe pas, ça, dans le DSM, là, la sociopathie, là. Fait que safe, là.
Mais tu sais, elle va dire qu'il a bâti son empire sur rien. Il y a un sleep disorder. En tout cas, on en rajoute, là.
Ce qui m'amène à une réflexion incidente, étant donné qu'on a travaillé ensemble, je pense que tu vas savoir à quoi je réfère, là, c'est... qu'il y a des patients, tu sais, dans des institutions psychiatriques ou dans des ressources communautaires en santé mentale, il y a des patients qui ont le talent, qui ont l'art, qui maîtrisent l'art de polariser les équipes d'intervenants. C'est-à-dire qui maîtrisent l'art d'être de créer un sentiment d'être agressé, par exemple, un sentiment très négatif chez, grosso modo, la moitié des équipes soignantes.
Ouais.
Et un sentiment très positif,
ouais,
chez, grosso modo, l'autre moitié de l'équipe soignante.
Ouais.
Et que ces réactions-là sont très, très fortes.
Ouais.
C'est des gens qui ont l'art de cliver. Ouais. Cliver des équipes.
Entre autres, en faisant un peu replier... enlever certains semblants, tu sais, de comme tout mettre à jour un peu, là,
oui,
d'attaquer, puis de...
Oui,
ouais.
On en a connu des comme
ouais,
ça,
ouais,
avec qui, tu sais, on... En tout cas, on avait... En fait, ça créait des conflits à l'intérieur de l'équipe.
Ouais.
Puis c'était des conflits insolubles, parce que la présomption était... Les présomptions de chacun étaient opposées.
Ouais.
Puis ce que chacun vivait était opposé. Qui fait qu'on ne pouvait pas s'entendre sur les faits, sur qu'est-ce qui se passait réellement.
Ouais.
Tu sais?
Exact.
On ne pouvait pas arriver à un niveau de... Puis tu regardes...
En fait, les fréquences ne se rencontrent pas, en fait. On peut le dire comme ça.
Oui, c'est ça. C'est ça. Puis on regarde les États-Unis d'Amérique, en ce moment, à travers comme les médias qu'on a consultés, la situation actuelle donne l'impression que c'est un conflit à finir,
ouais,
entre les pro-Trump et les anti-Trump, qu'on appelle les never-Trumpers, d'après le mot lancé par Trump d'ailleurs.
Ouais.
C'est comme on les invalide en disant, mais de toute façon, eux autres, c'est peu importe ce que je vais faire, ils ne voudront pas.
Ouais.
Mais la polarisation est telle que c'est comme insoluble.
Oui. Oui, qu'il n'y a pas.
Fait que tu peux. C'est difficile de penser que c'est pas lui qui crée cette polarisation-là.
Uh-huh.
Tu sais, l'Amérique était polarisée, mais je veux dire, on arrivait à 100. Là.
Non, mais
là, il
n'y
a rien qui va plus.
Non, t'sais? Exact. Puis, tu sais, on pourrait donner des exemples de moments où délibérément, il n'a pas voulu continuer dans le jeu de certaines conventions. Et, tu sais, c'est ça. T'imagines pareil, tu sais. T'imagines, t'es invité à un endroit où c'est convenu que les journalistes et les politiciens se rencontrent, prennent de l'alcool, jasent, font des blagues, surtout qu'on gratule, tu sais.
Mais ça moque gentiment un
ouais,
autre
ouais.
aussi.
Mais ça perdure depuis des années. Puis là, t'arrives, puis tu pointes du monde, puis... Enemy of the people, this, puis un tel
oui.
est pas bon. Fait que tu crées des camps rapidement de
oui.
un contre l'autre,
oui.
puis c'est dur de s'en sortir, tu sais. Mais pareil, moi, tu sais, c'est pas exactement ça dont tu parles, mais le dilemme que je continue à avoir, et que je serais curieux de voir comment tu le tranches, c'est. On donne beaucoup d'importance à sa personnalité. T'sais. On donne beaucoup
on n'arrive pas à y échapper.
On lui donne beaucoup d'importance, puis
oui.
nous, on en parle. Puis plein de gens en parlent
oui.
toujours. Puis on le voit particulièrement au Québec et au Canada, en passant, t'sais, où des fois, il y a des scandales canadiens au Québec qui sont à peine jasés parce que les chroniqueurs continuent à surfer sur des trucs de surface, sur ce que Trump a dit, a pas dit.
De tellement faible résolution, ça fait peur.
Oui, tu sais, ah, Trump, il a dit tel truc, il dit...
Quel con,
il a tweeté telle affaire. Mais là, tu vois, non, mais c'est parce que ici, dans notre pays, en ce moment, dans les CHSLD, il y a des centaines de morts. Oui, mais Trump, au moins,
oui,
on n'est
oui.
pas Trump. Tu sais,
oui,
c'est vraiment
ça.
Comme le voisin gonflable qui est facile à prendre en grippe, puis dire,
oui.
au moins, on n'est pas lui, tu sais.
Oui, puis à vous comparer, nous, on a un premier ministre qui est donc tellement beau.
Oui. Puis le gros, c'est une bonne personne. Puis là, tu sais, OK, mais nonobstant la personnalité de chacun, tu sais, je peux concevoir là, qu'on aime
ah.
mieux. Tu sais, on donne beaucoup d'emphase à sa personnalité aussi, puis ça sert de distraction aussi. Fait que donc, est-ce que ça sert trop de distraction? Est-ce qu'il n'y a pas du monde qui utilise ça pour en catimini prendre plein de décisions pendant que le monde continue à tourner autour de ses sauts d'humeur? Puis. Puis lui encourage ça. De plus en plus, en plus, on peut dire, je trouve que de plus il est en train de sombrer dans la pandémie, là, plus des fois il est provocateur.
Oui.
Pour essayer de comme changer.
Essayer de s'en sortir. Ouais. Il est comme he's in the swamp.
Mais est-ce qu'on donne trop d'emphase à sa personnalité, tu sais?
Mais en même temps, c'est difficile de. Tu sais, c'est comme un. En ce qui me concerne, moi, personnellement, je veux juste. C'est puis je sais, et je sais que c'est comme ça aussi pour beaucoup d'usagers Twitter que je suis, là. C'est vraiment difficile d'arrêter de regarder. Tu sais, c'est comme regarder un accident d'auto. Tu sais, c'est vraiment difficile de sortir, tu sais, d'arrêter. Tu sais, il y a une espèce de fascination bizarre avec lui.
Mm-hmm.
Puis l'autre chose, c'est que... quand tu l'écoutes parler, c'est mon expérience, c'est peut-être pas l'expérience de tout le monde, mais quand tu l'écoutes parler... Quand je l'écoute parler, disons, là, je les écoute. J'ai tout écouté, moi, ses conférences de presse sur la pandémie. Puis à chaque fois qu'il parle à Fox News, j'écoute. Je suis très curieuse de comprendre comment ça marche. Quand je l'écoute, je trouve pas ça si pire. Ouais, tu sais, je me dis, ah ouais, non, c'est vrai. Il y a du vrai dans ce qu'il dit.
Uh-huh.
Et j'ai comme la tentation de combler les vides quand ça m'apparaît un petit peu comme... court-circuiter des choses ou que il finit pas sa phrase ou tu sais j'ai la propension à compléter dans ma tête puis ça fait comme
sens.
C'est-à-dire c'est je suis pas obligatoirement d'accord mais j'ai l'impression que je comprends ou que je trouve que ça peut être sensé son point de vue. Quand je lis la transcription par écrit, je vois complètement d'autres choses. C'est que je comprends qu'il y a des gens qui sont pas comme moi, là, qui ont moins de facilité que moi à se laisser embarquer dans quelque chose de confusionnant,
mm-hmm.
qui a l'air cohérent, mais qui ne l'est pas, et qui, au contraire, se braque immédiatement.
Ouais.
Puis parmi ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui sont braqués depuis l'annonce. Depuis avant même l'annonce de sa candidature à la présidence américaine. Ça fait que ça fait juste empirer. Eux, ils sont braqués, ils sont en colère, ils sont enragés. Je comprends qu'on se braque parce que c'est un piège. Il y a du talent. Parce que ça c'est comme il y a juste assez de vide pour que quand tu essaies d'être de bonne volonté, tu sois naturellement... Tu sais, c'est comme les... Tu sais, là, quand tu vas lire un texte avec... tu sais, il manque des mots.
Oui, puis tu comptes les mots. Hein.
Puis tu compenses,
ouais,
tu sais.
Ouais.
Que, tu sais, tu peux combler les vides logiques ou les sauts ou, tu sais, là où il manque d'informations d'une façon que d'autres refusent de faire.
Ouais.
D'autres ont décidé que non, il n'y en était pas question.
Au contraire, comme ça. Pis, à chaque fois, c'est comme braqué, tu sais.
C'est ça. Puis regardez comment il est fou, regardez comment c'est incohérent, regardez comment il est dément. Il est atteint de démence, tu sais, au sens où atteint de démence.
Puis l'avocat du diable, par contre, pour prendre la position de l'avocat du diable, ça serait dire il a décidé de. Mais là, toute la pandémie a tout jeté à terre, là, mais
oui, oui.
Avant la pandémie, disons, et puis c'est pas si longtemps, là. Il avait décidé de faire des grands rassemblements dans des dans des gros amphithéâtres. Il faut lui donner quand même. Tu sais, il y a 30 000 personnes dans une place. Et il arrive et il parle pendant 50 minutes, une heure. Et il parle donc nécessairement à bâton rompu, avec son style, un peu tout croche. Moi, je n'ai écouté quelques-uns. Je n'ai pas écouté plusieurs, mais je n'ai écouté quelques-uns au complet. Donc, pas juste... Puis parce que tu vois la différence. Pas le lendemain... ce qu'on a retenu la phrase,
c'est ça, oui.
C'est punché, mais le 50 minutes n'est pas une phrase punchée, là. Il est très folksy, tu sais, il part une anecdote, il pointe quelqu'un dans la foule, il fait rire le monde sur du... il badine, tu sais, c'est interminable, là. Mais je veux dire, il y a une qualité d'orateur qui est pas mal dans le sens du badinage sympathique, là. C'est rare qu'on dise ça pas pour Trump, mais... Il est anti-Obama dans le sens qu'il n'arrive pas là solennel,
oui.
Avec un grand message,
oui.
Tu sais, bien écrit, oui. Avec des pauses, puis le regard au loin, là.
Oui,
il jase, puis il nomme du monde, puis puis t'as des mouvements de foule, tu sais, c'est quand même quelque chose, là. Des fois, t'arrives, il y a 35 000 personnes dans un stade, c'est pas un amphithéâtre, dans un stade, puis il se met à ridiculiser les journalistes, puis le monde se met à chanter « CNN sucks ».
C'est vrai,
ça, que c'est arrivé.
Oui, puis est-ce que tu peux t'imaginer que toi, t'es journaliste de CNN,
oui,
que t'es pointé du doigt? En fait, il répète l'expérience qu'il a vécue à la galerie, ouais, de la presse.
Oui, 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 parce que t'es là, toi. Là.
C'est ça. T'es le gars de CNN, t'es pointé du doigt, puis que là, t'as 35 000 personnes qui te huent.
Oui,
en disant alors que t'étais pas bon, là pour te présenter devant le monde, t'étais là pour enregistrer. Peux-tu imaginer ce que... C'est comme la violence que... Ah!
Oui. Mais donc, c'est vrai que ça ouvre la porte après ça à... une contre-attaque, tu sais.
C'est là que je voulais intervenir tantôt. Tu sais, les Dylan Klebold, Eric Harris de ce monde, les Columbine, puis les Kim Virgil, les tueurs de masse qui sont des jeunes fin secondaire, début cégep, qui ont une expérience d'humiliation, et qui passent à l'acte pour venger leur sentiment d'humiliation. Comment je dirais? On peut avoir de l'empathie pour le fait qu'ils se soient sentis humiliés, sauf que le chemin qui va du sentiment d'humiliation au massacre, c'est pas du tout un chemin qui est évident. On peut avoir de l'empathie en rétrospective, dire ok, on comprend que il s'est senti bébé, il s'est senti humilié, ça veut pas toujours dire qu'il y a eu une volonté
oui, tout à fait.
D'humilier.
Ouais.
Il s'est senti humilié et ça fait partie de ce qui explique son geste, mais en fait le chemin n'est pas du tout logique. Comprends-tu? C'est pas obligatoire, puis même en rétrospective, parce que là, après, ça laisse la question de qu'est-ce qui l'a rendu si susceptible à un sentiment aussi puissant, aussi fort d'humiliation?
Ouais.
Fait que, tu sais, on peut dire, bon, OK, c'était pas cool. Là, ce truc-là à la galerie de la presse, moi, je l'écoute, puis c'est cringe-worthy. Là. Je les trouve rough en tabarouette pour un gars qui est juste comme assis là. Il n'était pas là pour se mettre en spectacle. Là. Il assistait. Là, en même temps, puisqu'on l'a établi, ça, c'était consécutif à des efforts soutenus de la part de Donald Trump d'humilier Barack Obama. Tu sais, il y a comme... Tu comprends? Fait que toi, tu t'es senti humilié là.
Oui.
Mais en même temps, c'est pas arrivé de nulle part. Puis en fait, toute ta vie, t'as été dans un rapport de humilié, humiliant. Toute sa vie à lui, c'est ça aussi. Oui. À Donald Trump. Fait que, tu sais, on peut avoir été injuste envers lui, c'est vrai. On peut se sentir autorisé d'être injuste envers lui, compte tenu de comment lui s'est comporté et se comporte encore envers d'autres. Tu sais, il y a tout un truc là-dedans. En tout cas...
Ouais. C'est la question aussi de l'humiliation originelle. D'où part l'humiliation? Puis c'est quoi sa justification à lui d'être un bully en lien avec plein de gens? Puis tu sais, c'est quand même, quand on y pense, c'est ironique, là, je l'avais oublié, mais tu sais, il a connu son succès dans l'immobilier, puis je comprends tout ça, puis il a fait de l'argent avec plein de trucs de l'immobilier à New York, là. Sa célébrité est beaucoup reliée à ses émissions de télé, tu sais.
Oui.
De Celebrity Apprentice. Puis hein? de sa phrase de You're fired, qui dit à la. Tu sais, qui est un truc d'humiliation aussi, dans un sens, c'est qu'il isole quelqu'un qui serait le coupable de l'échec d'une équipe, puis le pointe, puis il est très identifié, puis c'est toi, t'es renvoyé avec une voix, avec une somme gravitas, là, tu sais, you're fired.
Oui.
Puis c'est là-dessus qu'il a fait ça, qu'il a connu quand même une certaine célébrité. Mais Mais donc, c'est ça, toute l'idée de l'humiliation, de où ça vient, parce que, tu sais, moi, je suis plus interpellé, je suis plus hésitant que toi, parce que l'autre fois, j'ai entendu quelqu'un dans un podcast, une personne que qui m'apparaissait très posée, très peu partisan, puis, ce que je respecte, puis qui monsieur très correct, puis, tu sais, tout son exposé, c'était comment, depuis le début de sa présidence, jamais un président avait été repris et essayé d'être trouvé fautif d'autant de choses d'une façon illégitime, tu sais, qu'on les essayait depuis le début désespérément. Puis c'est vrai qu'il y a quelque chose au niveau de l'illégitimité depuis le début, vraiment, puis quand on le voit en boucle, depuis le début, on parle d'impeachment, tu sais. Je sais pas, depuis le jour 1 quasiment, c'est comme s'il y a des gens qui disaient « OK, ça n'a pas de sens, il ne devrait pas être là ». Il n'y a pas d'affaire là. Impeachment.
C'est traumatique. Oui, c'est. Puis, oui.
Puis quand,
faut qu'il parte.
Oui.
Faut qu'il disparaisse.
Puis si on voyait les quatre dernières années en focusant juste là-dessus, il y a des dizaines de fois où des journalistes disent ah, là, son cas s'empire. Là, c'est un pas de plus vers l'impeachment. L'étau se resserre. Là, ça. C'est comme tracer un narratif tracé que tu essayes en fait. Puis il y a ça, une fois qu'un narratif est en place, de dire OK, mais ça, c'est, il va être impeaché, c'est juste une question de quand. Puis essayons de trouver des choses en conséquence pour. Fait que là, c'est la question de dire, OK, mais le gars que je respecte, dont je parle, lui disait, ça n'a aucun sens. On a été, depuis le début, depuis le jour 1, depuis avant qu'il commence, depuis le début de sa présidence, on a parti ce narratif-là, qu'il n'y a pas d'affaire là, puis qu'il faut l'impeacher. Quand en fait, nonobstant sa folie, son personnage, il a été élu démocratiquement. Fait qu'il y a quand même une twist, nonobstant le personnage, de quelqu'un qui est élu démocratiquement, de dire dès le jour 1 comment le sortir de là, avant la fin de la quatrième année, tu sais. On pourrait dire qu'on dirait, ben, faut faire avec, tu sais. C'est ça la démocratie. Hein.
Mais tu dis jamais un président a été autant vilipendé dès son arrivée au pouvoir. Je suis pas sûre que Barack Obama, de l'autre côté, a pas été détesté avec autant d'agressivité.
Ah ouais?
Par les gens de Fox News, le pire président. C'est comme toute la birther movement, là, tout le mouvement qui allait dans le sens d'essayer de mettre de la pression pour qu'il prouve qu'il était un vrai Américain.
Ouais.
C'est toute une affaire, tu sais, de Tea Party, de droite conservatrice républicaine qui se sont jamais remis de son élection. Tu sais, il y a quand on dit on, c'est parce que j'ai l'impression c'est qu'on parle dans la presse qui nous parvient à nous. Ouais. La presse qui nous parvient à nous, c'est pas la presse de droite, c'est la presse du New York Times, puis de CNN, puis de, tu sais, ce qui ressemble à Radio-Canada, admettons, ouais, ou à la presse. C'est ça qui nous parvient à nous. Ce qui existe aussi, que nous, on n'entend pas ici au Québec, je parle,
mm-hmm,
où on entend moins, tu sais, c'est des Fox News, puis puis même le Washington Post un temps, puis même, tu sais.
Ouais.
Pourquoi? Parce que t'as, de l'autre côté, des voix qui nous parviennent, ouais, moins à nous ici.
Ouais, mais je suis d'accord, tu pourrais avoir. En fait, je sais pas, je connais pas assez la... Mais mon impression, c'était que, c'est tout à fait, tu sais, que quelqu'un comme Bill Clinton, pendant tout le truc de Monica Lewinsky, il a passé au cash à chaque jour, on n'en pu finir sur des détails, tout ça, tu sais. Mais mon idée, c'était pas tant d'avoir un président qui était détesté ou dénigré par une certaine presse de droite ou de centre-droite ou tout ça, c'est de dire qu'on se permet de le destituer, non pas tant sur « Ah ah, on l'a pris sur un truc qu'il n'aurait pas dû faire », tu sais, dans le cas de Bill Clinton, c'est sur un mensonge, c'est pas tant ce qu'il a fait, c'est le dit, tu sais,
mm-hmm,
sur un acte, sur sa participation à quelque chose, tandis que Trump, j'avais l'impression que c'était plus sur l'essence de son être qui est « unfit » en tant que tel.
Oui,
c'est pas pour sa,
oui,
politique,
oui,
par rapport à l'Irak, de,
oui,
ci, de ça, ou qu'on,
oui,
a pogné.
Oui.
Mais on essayait aussi, mais,
oui,
ce que je soulignais plus, c'était le roi est nu, tu sais, il devrait pas être là, il est unfit, il est... Puis là, tout ce dont on parle aussi, tu sais, de gens qui disent, mais il y a un diagnostic de... Il est pas en bonne santé mentale, il est unfit.
Oui.
Je pense
pas
qu'on a dit ça aussi clairement de d'autres présidents ou de Clinton, tu sais. C'est comme, on a eu Clinton, tu sais, on l'a attrapé, mais ça va-tu fonctionner ou non? On va voir où ça mène, mais je pense pas que personne garochait des diagnostics ou des... Mais comme je te dis, en même temps, la question, c'est... Il reçoit ce qu'il a envoyé aussi, là, tu sais. Il est arrivé en disant, je vais drink the swamp, pardon, puis je vais... Les médias, c'est les ennemis du peuple, alors, tu sais. Mais donc, la question étant, dans l'éventualité où c'est... Il y a quoi de vrai dans l'idée qui a été dit et pointé comme illégitime et unfit dès le départ, au jour 1 avant qu'il fasse quoi que ce soit, dans un processus démocratique, est-ce que c'était légitime de le faire?
Mais c'est pas parce que des gens avec qui on n'est pas d'accord idéologiquement disent qu'il est unfit que ça veut dire qu'il l'est pas. Tu sais?
Oui! Mais ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait, admettons. Oui, ben c'est bien dit. Donc, qu'est-ce qu'on fait, disons, d'un président élu démocratiquement qu'on jugerait unfit? On fait quoi?
Mais c'est parce que là, la question aux États-Unis, elle commence à se poser. Notre démocratie, est-ce qu'elle est en jeu? Parce que unfit, là tu as quelqu'un qui est à la tête des États-Unis, qui est en train d'envoyer la police fédérale dans des villes comme à Portland, par exemple. Des gens cagoulés, masqués, avec des voitures non identifiées qui ramassent des protestants et qui les amènent on ne sait où. Comme dans le Chili de Pinochet, là.
Uh-huh.
Fait que, tu sais, on dit unfit. Fait que là, c'est ça le truc. C'est la lecture, est-ce qu'on la fait au plan psychologique, la pathologie psychologique ou de la pathologie politique?
Ouais.
Sauf que c'est dur de dire...
De différencier l'un et l'autre. Hein.
Oui, mais c'est dur aussi de dire que c'est pas de la pathologie.
Ouais. Mais puis, mais j'avais encore la même chose, puis peut-être je me répète, là, mais tu sais, il y a l'idée que c'est une chose, disons, d'un peuple, d'une nation qui est contre une décision, tu sais, qu'on est contre d'envahir le Vietnam, qu'on fait des manifestations. Là, c'est lui qui a amené ça contre lui, là. Je le conçois, mais c'est comme si on disait, indépendamment de ses prises de position politique, le problème, c'est lui.
C'est ça.
Fait qu'on manifeste contre sa pathologie personnelle. Tu sais.
Oui.
C'est quand même particulier.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Parce que si on demande aux gens souvent qu'ils l'haïssent puis qu'ils disent qu'il est fou, on se dit, OK, mais c'est quoi dans ses politiques que... Contre quoi tu t'insurges autant? Parce que c'est pas tellement. Il est fou, tu le vois bien. Mais en même temps, c'est ce qu'il fait. Je veux dire, quand lui, il parle de Hillary Clinton ou de Joe Biden, il dira pas Joe Biden et moi, on a une différence de point. On a une différence de point de vue. Tu sais, un champ de paradigme différent par rapport à tel thème. Il va dire Sleepy Joe. Crooked Hillary, il va juste...
Lock her up.
Ouais, c'est juste personnalité, elle est folle, elle est vieille, elle est... Fait qu'il reçoit la même chose, là, mais donc, qui a créé ça, j'en le conçois, mais donc ça fait quand même une situation où c'est rendu très autour de la personnalité, très personnelle de part et d'autre, et ce qui fait un drôle de climat, et ben là, qui fait qu'il y a des psychologues, des psychiatres qui disent, ben...
Puis dans les psychologues, les psychiatres qui disent, tu sais, t'en as qui vont dire... C'est un narcissique malin. Malignant narcissism. Ouais. Fait que c'est pas seulement un trouble de personnalité narcissique, c'est qu'il y a le côté malin.
Mm-hmm.
Tu sais, le désir de faire souffrir, le désir de voir souffrir. T'as ceux qui parlent comme ça, puis t'en as un dans tout ça qui s'élève et qui insiste, qui s'appelle John Talmage, qui se discipline à toutes les fois que Donald Trump prend la parole pour l'écouter du début à la fin pour lire la transcription, c'est pas la même chose quand il parle puis quand c'est transcrit, et réitérer son diagnostic. Son diagnostic, c'est ce monsieur est atteint de démence. Ça fait qu'on a quelqu'un qui était peut-être un narcissique, qui était peut-être un tu sais,
mm-hmm.
mais qui est rendu à un stade de sa vie où tout ça s'effrite ou s'exacerbe, en tout cas, est distordu par une maladie organique dégénérescente, qui est une maladie du cerveau. Puis ce gars-là, ce qu'il dénonce, c'est pas quelque chose comme... C'est comme, c'est un effet... C'est pas du tout le même effet. dire « c'est un narcissique malin », ce que ça attise, c'est la colère.
Mm-hmm.
Dire « cet homme-là, c'est un démon », c'est-à-dire « il est atteint de démence, il a une maladie de personne âgée à 73 ou 74 ans », ça a quelque chose de tragique de voir que personne ne lui vient en aide. Et ça a quelque chose d'encore plus tragique de voir qu'autour de lui, il y a un paquet de gens qui en profitent. Sa fille, en premier lieu, Ivanka, ses fils, son gendre, qui en profitent et ne lui viennent pas en aide. Mais cet homme est un homme malade.
Nonobstant, d'autres leaders mondial qui puis en profiterait aussi potentiellement.
Absolument. Absolument. Puis je dis ça juste pour dire ça suscite, que ça ne suscite pas la même réaction.
Non, 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 tout à
fait.
Puis
que quand tu attises la colère populaire, Black Lives, tu sais, comme les Black Lives Matter, puis tu sais, comme tous les mouvements de contestation, puis la haine de Trump, puis tout ça, c'est quelque chose qui favorise le maintien et la normalisation du discours disjoncté de cette personne-là, à mon opinion, à mon avis, qu'il favorise, tu sais, par la brutalité, c'est-à-dire, tu sais, comme des marches, des révolutions, des tentatives, des espoirs de révolution, il y en a pour vrai, à quoi il peut répondre? Tu lui donnes un ennemi.
Oui. Oui, tu
alors que il est là en train d'errer, à essayer de trouver à quoi s'accrocher, tu sais, qui est en train de se perdre dans les méandres de sa propre tête, toi, tu lui donnes sur un plateau d'argent un ennemi. En fait, tu favorises le potentiel de réélection.
C'est sûr.
Ce que tu fais pas, si tu fais comme ce médecin-là, Dr. Talmage, John Talmage, de dire, mais en fait, soyez compatissant, aidez-le, sortez-le de là, c'est un homme malade.
C'est sûr que la meilleure façon... On pourrait peut-être conclure là-dessus, Annie, parce qu'on a commencé avec la transgression.
Oui.
Puis là, il y a toute
C'est un tordu. Hein, ça.
Mais tu sais, la transgression au cœur de l'humiliation, au cœur de son positionnement. Mais là, ce qui revient 4 ans et presque plus tard, c'est toute l'idée de la loi. Puis là, il y a des gens qui disent abolissons la police.
Oui.
Et moi, je pense que la meilleure façon de le réélire, ça serait qu'il y ait un mouvement trop fort qui dirait il faut définancer la police, abolir la police, plus de loi, parce que là, ça va être donné vraiment, bon, ben voici, l'ennemi est clair.
Puis tu le vois essayer très fort de le créer, ben ce mouvement-là, de les encourager à le faire.
Mais là, ça serait quand même ironique que le pervers, entre guillemets, comme tu l'as décrit, qui transgresse, se fasse réélire sur le respect de la loi.
Ah, oui, oui.
Ça serait quand même une ironie.
Quelle ironie!